qui vous rattache intimement à cette région du Mâconnais?
J'y suis né d'abord, hein, en 1903, dans rue Lacretelle, c'est-à-dire au sommet de la ville. Hein. Alors, quand j'ai eu un petit peu d'argent et que je pouvais m'acheter une maison à moi, en 1960, il y a donc ça 20 ans, nous avons cherché un endroit où je pourrais m'établir pour l'été. J'aurais voulu une île, parce que mes îles, la Martine, etc., puis il y avait pas mal d'un, c'était une trop grosse maison. On a fini par trouver cette petite maison-là, qui était très à l'écart, hein, parce qu'il faut avoir une voiture pour y aller. Le chemin de fer est à 10 km, le bus passe à 4 km, donc j'ai ça, c'est ça vraiment pour un morceau de pain, et c'est ce que je voulais, parce que c'est la solitude complète. Hein. Le petit village qui s'appelle la Cour des Bois n'a que 8 foyers, même pas 7 foyers, enfin on est dans un endroit tout petit. Alors je suis dans mon pays, puisque comme je vous dis, je suis né à Mâcon, et je suis très attaché à ce pays par les chemins d'enfance où vous devinez facilement. Hein. Mon père était agent revenu, qui n'existe plus aujourd'hui. Ça venait, ça s'appelle maintenant, ça a une inflation de titre, ingénieur TP, ingénieur des travaux publics de l'État. Mais jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, ou presque, c'est l'année précédente qu'il est devenu ingénieur, il est donc agent voyé, ce qui signifie s'occuper d'enfermement des routes du caniveau. Car il était toujours à l'extérieur. Et quand j'ai eu 5-6 ans, quand on m'avait acheté un premier petit vélo, il m'emmenait souvent avec lui. Alors comme ça, je voyais des choses, et puis il parlait loin, 15-20 km maximum, hein. Je me rappelle encore qu'il me faisait monter quelquefois sur le rouleau compresseur. Vous savez, c'est l'armée truc, et avant, c'est les quelques hommes qu'il avait sous ses ordres, qu'il était 5 ou 6 cantonniers, hein, mais les bien donné des billes, vous allez trouver. Enfin, avec mon père, j'ai eu beaucoup cherché et beaucoup remué dans sa tien. Il avait une passion qu'il m'a donnée, qui est fossile. Et il avait trouvé, à cause de son métier même, des endroits où il trouvait des fossiles. Alors j'allais quelquefois le dimanche avec lui en chercher, dimanche parce que les autres ne travaillaient pas, ou encore juillet après-midi. J'avais les bélémites, ça était en forme de, pas de fuseau, avec une pointe au bout, ou les ammonites, qui sont des circulaires, vous savez. Alors j'en ai constitué comme ça toute une petite collection, et vraiment c'était une grande joie pour moi, le dimanche ou le jeudi. Je dois dire que la plus grande joie, c'était au fond d'aller au cinéma avec mon père. Mais enfin, quand on allait au cinéma, on allait se balader. Alors toute cette petite région-là autour de Mâcon, mais infiniment connue, enfin, elle tient au truc, si vous voulez. Vous ne connaissez pas, je crois que vous faites de la découverte. C'est un endroit, Lamartine, enfin je veux dire, Lamartine est un homme modéré, hein, c'est un homme qui raconte des petites choses douces, sa poésie n'est jamais violente. Elle correspond exactement à ce qu'il dit. J'aime Lamartine, hein, et j'aime effectivement ce qu'il a dit. Il a même raconté quelque chose que j'avais pris pour une blague. Dans son voyage nord-ouest, il raconte quand il a fait une première escale à Athènes, il a dit les collines de l'Attique avaient la même couleur que les collines de Montpellier. J'ai dit une blague. Je n'étais pas allé à Athènes avant 1949. Je suis allé à Athènes, et effectivement, j'ai trouvé que la colline, l'Attique, enfin, au-dessus de l'Athènes, ça s'appelle pas l'Attique, je m'en ai vu comment ça s'appelle juste, au-dessus de l'Athènes, c'est la même couleur de pierre qu'ici. Alors, ça m'a encore attaché de plus à ce titre, c'est vous dire que c'est un pays qui a pour moi le charme de l'enfance, et aussi le charme en soi d'être un beau pays, modéré, intelligent, souple, sain. Enfin, j'aime pas la littérature, moi, c'est un pays auquel je suis attaché parce que dans son horizon même, dans sa texture et dans ses couleurs, il me parle.
Les lectures de vos loisirs, quand vous lisez pour vous.
Évidemment, vous avez raison de dire quand je lis pour moi, parce que j'ai lu beaucoup de choses pour mon travail. Hein. Naturellement, la plus grande partie de mon temps se passe, puisque je suis libre comme tout maintenant, je n'ai aucune obligation, hein, se passe à des lectures de travail. Mais à la fin de la journée, j'en ai marre et j'essaie de faire autre chose. Alors, c'est autre chose que systématiquement, et je vais me déshonorer, le roman policier. Hein, j'adore ça. Ça dépend lequel. Avec Agatha Christie, je m'ennuie beaucoup. Autrefois, je marchais, mais je trouve super artificiel. Enfin, je n'y crois plus. Ce sont la série noire. Je sais bien la mauvaise réputation du mélange de sexe, de sperme et de sang. Enfin, ça m'intéresse beaucoup. Très illégal, hein, attention, très illégal. Je ne peux plus supporter les cartes à Brown, par exemple. Mais du point de vue américain, c'est pas Hans, par exemple, ou encore Adley Chase, c'est très bon. Mais donc, il y a des Français qui m'ont assez dépassé. Un type dont je n'ai pas le nom, qui signe, je crois, Francis Fouque, fait le jeu excellent. Et puis, il y a un monsieur pour lequel j'ai pris une vraie passion, qui s'appelle, je crois, Jean. Alors, c'est un nom d'Alsacien. Ah, c'est le nom ne revient pas. Ah, Vautrin, vous avez parfaitement raison, c'est ça. Vautrin, il a fait deux choses. Il y en a un qui s'appelle Billy the Kick, qui est KICK. Et puis, c'était tellement bien qu'il a quitté la série noire, qui tout de même a fait un peu populaire, et qui a publié dans un gros bouquin, quelque chose qui s'appelait Bloody Mary, qui est de premier rang. Alors voilà, et ben c'est ce que je lis souvent, presque toujours, la plupart du temps, le soir, dans mon lit, avant de me replier, j'ai lu une demi-heure vraiment politique. Mais j'essaie aussi, quelquefois, de relire anciens bouquins, des romans, par exemple. Alors là, je me suis aperçu que les livres qu'on a aimés autrefois, que j'ai aimés autrefois, ne sont plus ceux que j'aime maintenant. Exemple. Julien Green. J'avais comme ça 20-25 ans. J'en avais le Moncinaire, je m'en relevais déjà sur la terre, qui m'avait impressionné. J'ai essayé il y a 2-3 ans, c'est plus possible. Je trouve ça absolument de la rhétorique, c'est faux, c'est triché, c'est de la vraie littérature. Et même Malraux, je me rappelle encore comme Malraux était important pour moi l'avoir regardé le Conquérant. Ben, il y a 2 ans, j'ai essayé Malraux et j'ai trouvé ça également truqué, ça pas vrai. Alors évidemment, si vous me demandez, je l'ai dit l'autre jour, c'était un gros chapitre, je crois, c'est Victor Hugo que je préfère être assez vrai. Je ne me lasse jamais de relire du Victor Hugo. J'ai lu 3 fois dans ma vie des Misérables. C'est toujours immense pour moi, c'est un univers, il y a des tâches de patente. Et je dois vous dire aussi que Flaubert, on en parle aujourd'hui parce que c'est en sa naissance bientôt, il y a eu des choses, évidemment Salammbô est absolument impossible. Mais là, c'est passé 50 toiles, c'est beau. Et Madame Bovary, c'est pas mal, mais ce que je trouve de mieux, c'est certainement l'éducation sentimentale. Il y avait un personnage extraordinaire, c'est celui de Madame Cécilia, qui l'a appelé Madame Arnoux, je crois, Madame Arnoux, puis à Frédéric Moreau. Voilà, alors voyez-vous, quand je ne fais pas du travail, je vais bien lire mon policier ou d'anciens romans pour voir ce qu'il me donne encore aujourd'hui.
Rappelez-nous qui était Marc Saunier et quel rôle il a joué dans votre vie.
Un grand rôle. Marc Saunier est très oublié aujourd'hui, hein, je me rends compte quand je prononce son nom, les gens ne savent pas. C'est avant la Première Guerre, entre 1900 et 1914, qu'on a vraiment beaucoup parlé de lui. Il avait créé en 1900, un garçon qui sortait de l'école polytechnique, qui avait beaucoup d'argent, qui avait décidé d'utiliser ses biens à sa propagande, il avait créé un mouvement qu'il avait appelé le Sillon. Et c'était un mouvement à la fois religieux et politique. Politique, d'une manière tout à fait inattendue, à ce moment-là, les catholiques étaient représentés, étaient considérés comme des gens de droite, et lui s'affirmait républicain, et même républicain de gauche, et même, j'en ai entendu, républicain d'extrême gauche. Ce qui provoquait un grand tumulte et beaucoup d'incrédulité. La droite l'appelait un traître, et la gauche disait, c'est un hypocrite, c'est pas vrai, on ne peut pas être à la fois catholique et républicain. Or, il l'était pour de bon, et vers les années 1907-1908, ça a été vraiment une chose considérable en France. Je viens de dire récemment dans une œuvre inédite qu'on a révélée en 1953 de Péguy, un déchaînement de Péguy contre lui à cause du bruit que se faisait cet ami qui avait menacé lui, qui était né en 73, Péguy aussi. Péguy était inconnu et il considérait que ce petit jeune homme insupportable faisait beaucoup de bruit. C'est vrai qu'il faisait un très grand bruit, au point que le pape, qui s'appelait Pie X, le 25 août 1910, est intervenu pour condamner ce gars. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai relu cette condamnation du 25 août 1910, elle est, permettez-moi de le dire, scandaleuse, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'observation religieuse, mais d'observation politique. Le syllabus de 1964 avait condamné le libéralisme et l'idée démocratique. Bon, l'Église à ce moment-là était comme ça. Et c'est dans la mesure où il s'agissait d'un catholique de gauche, d'un catholique républicain, que le pape intervenait en disant c'est un califat. Alors il a cédé, mais il a obtenu de Rome l'autorisation de faire un livre, une publication purement politique, qui s'appelait alors la démocratie, qui a paru juste à la guerre, puis la guerre est intervenue, il a fait son devoir, il a eu la première, etc., puis capitaine d'artillerie. Puis après la guerre, il a repris sous une autre forme qui s'appelait la Jeune République. Il faut vous dire que ce mot Jeune République correspondait dans l'opinion publique à quelque chose qui était sensible. Il y avait un journal qui s'appelait la Petite République, qui était dirigé par Jaurès et par les socialistes, et à côté de la Petite République, il y avait la Jeune République. Bon, c'est à ce moment-là qu'il est parvenu dans la vie. Hein. Il est né en 1973, moi en 1903, vous voyez la différence. En 1922, j'avais été reçu à l'écrit de l'école normale supérieure, mais il fallait aller passer l'oral à Tarte. Alors, dans cette même année, 1922, un garçon qui était avec moi à Cannes, la Cannes, la préparation de l'école normale supérieure à Lyon, m'avait prononcé devant moi le nom de Saunier. Je ne savais pas qui c'était, mais ça m'intéressait. Pour une raison que je vais vous l'expliquer. Il y avait dans ma famille un divorce. C'était que mon père était extrêmement anti-religieux, pas seulement anti-catholique, mais anti-religieux, et que maman était très catholique. Et ça me peinait à voir que je ne pouvais pas unir en moi ces deux. Et tout à coup, je me suis dit, mais ce Saunier représente quelque chose qui me permettrait de trouver une espèce d'unité intérieure. À la fois républicain comme mon père, catholique comme ma mère. Alors, carrément, je suis allé dans sa maison, en dessous de Varaspa, et j'ai demandé à voir ce monsieur Saunier, qui m'a reçu tout de suite. C'était un homme qui avait 49 ans à ce moment-là, qui avait une allure de Gaulois, une grosse moustache, etc. Fin de ventre, comme du poitrail, il avait de très beaux yeux bruns, et il était là chaque 2 semaines. Il m'a tutoyé tout de suite, il m'a demandé de le tutoyer, ce qui était très gênant, et il était très rigolo. C'était pas un homme qui était perdu dans la mysticité, il employait même volontiers le mot mysticopoire, enfin il n'aimait pas ceux qui mettent des pantoufles, je sais, tu as dit, j'ai dit. Alors il m'a dit, il faut que tu sortes l'année prochaine, là, parce qu'on travaillera ensemble. Alors j'en ai dit un coup, alors j'avais bien désiré déjà être reçu, mais encore plus à l'idée de faire avec lui. Il dit, quand je suis entré à l'école normale en 23, j'entrais avec de l'avance, j'étais déjà licencié, déjà diplômé. Alors j'ai fait cette bêtise de ne pas travailler du tout, absolument pas du tout, pendant 2 ans à l'école normale, et de vivre chez lui. Alors j'ai été pendant 2 ans sous le service particulier. Et j'ai vu vivre de près cette femme. C'était pathétique, hein. Avec la simplicité même dont je vous parle, ce goût d'humour qu'il avait, les surnoms qu'il nous donnait, il y en avait un qui l'appelait l'éléphant ou l'élève, c'est celui qui mettait ses pantoufles sur le tour. Puis il y avait un autre qui l'appelait le chien fou, parce qu'en effet, il était agité. Il y avait un secrétaire qui était Freddy, il se présentait très bien, qui l'appelait le cheval. En effet, il avait pas vu le cheval. Et moi, j'étais le lapin parce que j'avais 2 ans qui sortait de la bouche à ce moment-là. Alors bon, j'ai le lapin, j'ai travaillé avec lui, et pendant 2 ans, j'étais que ça. Ce qui m'a coûté mon échec l'année suivante à l'agrégation, il a fallu faire 4 ans, il y a 3 ans. Alors, Samuel Renou, c'est quelqu'un qui m'a façonné. Hein. Il y a mes parents d'abord, puis la famille après. Alors, je peux dire qu'une grande part de ce que je suis, je le lui dois. Parce que c'est lui qui m'a appris à vivre le plus possible, dans la chrétienne, dans le socialisme, le plus possible. Hein. D'être assez éloigné du clérical, il n'était pas du tout clérical. Hein. Mais il était chrétien, enfin, dans son comportement. Et je l'ai vu vivre du matin au soir, puisque j'habitais chez lui. Et j'ai pris pour lui une affection, je ne dirais pas mesurée, mais considérable. Je veux dire, même une petite confidence, que c'est lui qui m'a fait le mariage, parce qu'il m'avait dit, tu devrais aller faire une conférence à Bordeaux. Bon, je fais une conférence à Bordeaux, c'est une conférence publique. Et je suis descendu chez le nommé Jacques Rodel, qui avait 2 ou 3 fois le secrétaire général du Sillon. Puis il y avait là une fille, qui avait à ce moment-là 15 ans et demi, que j'ai trouvé très mignonne. Alors, j'ai dit à sa fille, oh, ma vie, si je me marie, je me marie bien plus vite. Oh, c'est très facile, il dit, je vais en parler à Jacques Rodel, quoi. Hein. Puis je suis retourné l'année suivante, puis j'ai présenté ma candidature, parce qu'à ce moment-là, j'avais mon métier, quoi, j'étais agrégé. Alors on m'a accepté, quoique ma jeune femme était à ce moment-là 17 ans et demi, c'était un peu jeune, vous savez, qui a permis à Mauriac, qui était mon témoin, le jour du mariage, de me dire de sa voix basse, on passe encore l'assise pour beaucoup moins que ça, il m'a dit, parce que cette femme de 17 ans et demi, ouais. Bon, ben, Stanley est un homme qui a vécu jusqu'à 73 ans, il avait tout dépensé de ce qu'il avait, si bien dans leurs années, il était, oh, pas dans la misère, mais enfin dans la gêne, hein. Il habitait toujours cette maison boulevard Raspail qui était de son père. C'était un délabrement épouvantable. On mangeait très peu chez eux. C'était un homme qui avait énormément maigri. C'est-à-dire qu'il s'est ruiné pour ses idées. Alors, oui, j'ai quelques raisons de l'aimer beaucoup.
Pour beaucoup de monde, pour un iconoclaste, comment réagissez-vous?
Mais je réagis mal, parce que ça m'agace. C'est ce que vous avez dit, est vrai. La plupart des gens disent que l'humain, c'est lui qui a détruit. Hein. Pourquoi? C'est vrai que j'ai fait un texte contre Napoléon, et je ne reçois pas une syllabe. C'est vrai que j'ai publié un texte pénible de Vigny et un autre de Benjamin Constant. J'ai donc fait sur les, je sais pas, moi, 40 volumes ou 30 que j'ai publié, 3 ou 4 livres hostiles. Pourquoi si j'ai fait ça? Ben, Napoléon, parce qu'il me semblait que c'était indispensable de rétablir la vérité sur un homme qui me paraît être démoniaque, qui a fait beaucoup de mal à la France et au monde. Bien. Mais les deux autres, c'est presque par hasard que j'ai écrit ces livres, parce que j'avais trouvé, à la bibliothèque, non, aux archives nationales, un texte de Benjamin Constant, je m'y informais sur la Révolution, et justement, Madame de Staël, qui a une propriété à l'usage, et les lois, etc. Et demandant les documents concernant l'usage, j'ai trouvé, et personne n'avait encore vu ça, un petit bout de papier d'environ 15 cm sur 10, avec dans le coin de la main de Benjamin Constant et ses autres élèves, signé Benjamin Constant, à remettre à M. Chautin, ministre de la police, et en main propre. Et c'était une dénonciation. À ce moment-là, Benjamin Constant, qui venait du mois français, il voulait tout de même entrer aux 500. Vous vous rappelez, hein, au directeur, il y avait les 500 les anciens. Bon, il voulait entrer aux 500. Il n'y avait pas de droit, il n'était pas français. Et il y avait un usarche, là où il habitait, avec les 30 000 balles qu'il lui avait données sa maîtresse. Il y avait un curé, qui s'appelait Oudaï, et qui n'était pas favorable à la candidature de Benjamin Constant. Alors Constant dénonce ce curé à l'autorité, sauf ça, juste après Choukidor, je veux dire que c'était un coup d'État extrêmement gauche, enfin je veux dire anti-clérical, et avec beaucoup d'hypocrisie, il dit je ne demande pas qu'on l'arrête, je demande simplement qu'on l'éloigne. Alors j'ai voulu avoir le permis, j'ai cherché cette dernière curé Oudaï. J'ai vu qu'il avait été arrêté, transféré au ponton de La Rochelle, je crois, et de La Rochelle à Cayenne, où il est mort. Alors, comme j'avais découvert ça, je ne pouvais pas me taire. Enfin, je suis un historien, donc quand je trouve un document, il faut que je le publie. Et ça me paraissait tellement grave que j'ai mis ça dans mon bouquin, il s'appelle « Dans ma conscience, mais je cadre ». Voilà. J'ai fait un autre livre sévère sur Vigny, parce que là aussi, absolument par hasard, c'est pas la peine que je vous raconte les détails, j'avais trouvé des papiers de Vigny établissant qu'il allait trouver de manière assez régulière le préfet de la Charente, puisqu'il allait être le président de la Charente, et qu'au lendemain du coup d'État, ils signalaient à ce préfet les gens qu'il fallait arrêter, parce qu'ils avaient mauvais esprit. Et il y avait des choses particulièrement révoltantes, Junier était un incroyant, il est parfaitement le droit. Madame a écrit des choses très belles là-dessus, vous rappelez peut-être dans Le Main des Oliviers, il y a la forme du silence. Le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence, un silence éternel d'indignité, ça se tient. Et bien, quand on écrit ça, on n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait, puisqu'il écrit dans le prophète de la Charente, il y a un tel qu'il faut arrêter parce que c'est un juge de paix qui conseille aux jeunes filles de ne pas se marier à l'église. Je t'avais fait un peu raide. Hein. Alors c'est un informateur. C'est pas l'indicateur de police qui est payé, c'est un informateur. Ben, il y en a d'autres, des grands écrivains qui ont fait de la politique, il y a Lamartine, il y a Victor Hugo, il y a Chateaubriand. Je ne vois pas aucun qui trouve dessus qui serait capable de faire de la dénonciation individuelle. Alors j'ai fait donc un bouquin qui s'appelait Monsieur Gigny, homme d'ordre et poète. Il y a 250 pages, mais c'est comme ça. Il y a 30 ou 40 pages sur lui, homme d'ordre, l'essentiel ce qu'il vient de vous dire, et puis le poète que je respecte beaucoup et sur lequel j'apportais des idées. Mais à cause de ces trois bouquins, j'ai établi cette légende que j'étais mon destructeur. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Si vous voulez prendre l'ensemble de mes bouquins, j'ai fait surtout des défenses et illustrations. Défenses et illustrations de qui? De Flaubert, bon, peu importe. De Jean-Jacques Rousseau, de Lamartine, de Victor Hugo, de Zola, hein. Pour indiquer que c'était des gens qui avaient mauvaise réputation, par exemple Lamartine Chemelin, comme disait Proudhon, et puis sans virilité, alors c'est un titre très puissant, qui fallait ce qu'il voulait, en politique, pour être égaré dans la politique, pas du tout, il a été renversé parce qu'il disait des choses qui déplaisaient aux notables. Victor Hugo, on apprenait que c'était un admirable artisan du verbe, mais qu'il n'avait pas pensé ici, ça disait une pensée très sérieuse. Zola paraissait dans un pornographe, alors c'est pas vrai. Rousseau, un fou, oui, c'est vrai, à la fin il était traqué parce qu'on l'avait traqué. Alors voyez-vous, c'est vrai que j'ai changé un certain nombre d'images, c'est vrai. Mais croyez-moi, je vous dis la vérité, hein, j'ai beaucoup plus de joie à remettre à sa vraie place un type qui a été mal vu et dont je montre la vraie grandeur, que j'ai mis de joie mauvaise peut-être, à démolir une image conventionnelle de quelqu'un que je trouve beaucoup moins beau que ça les gens. Un point tout. Ma passion, ma seule passion en histoire, c'est la vérité.
La vieillesse, disons l'âge mûr, c'est une épreuve difficile pour vous.
Ben oui, c'est une épreuve, en ce sens que les forces diminuent, j'aime pas beaucoup ça. Hein. Porter quelque chose, maintenant c'est un drame, monter un escalier, comme ce côté le cas. Donc il y a une diminution considérable de mes puissances. Quoi. Alors ça, c'est très pénible. Il y a un danger, ma vieillesse, que j'ai bien constaté autour de moi. Vous savez, mon ami Pierre-Richemont, j'en ai parlé, je crois. Enfin, c'est un ami que j'aimais bien, qui était entré à l'école normale avec moi en 1923, on est resté toujours copains. Parce qu'il avait fait une évolution qui m'intéressait assez au début, quand ils étaient ensemble normalement, il était l'extrême droite, il était non pas comme le du roi, mais ça s'appelait jeunesse patriote, et moi j'étais de l'autre côté. On s'estimait quand même. Hein. Puis voilà que vers le milieu de sa vie, où il a 40-45 ans, il a fait un mouvement d'ouverture, il est passé centre-gauche, mettons. Hein. Il a écrit un bouquin qu'on lui a beaucoup reproché, qui s'appelait « Les catholiques, la politique et l'argent », qui me plaisait bien à moi. Figurez-vous que dans les dernières années de sa vie, il n'est pas mort, il avait 72-73 ans, il a écrit un dernier bouquin qui s'appelait « La sagesse du soir ». Et il m'a envoyé ce bouquin avec une dédicace affectueuse, comme toujours, en me disant « Je sais que je vais te faire de la peine parce que ma boucle est bouclée et je redeviens ce que tu m'as connu quand nous avions 20 ans ». C'est ça que je ne veux absolument pas. Non, je n'ai pas à revenir à quelque chose, puisque je suis un sage immobile, mais je ne veux pas devenir un sage du soir, c'est-à-dire Duhamel. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire de Duhamel. Hein. Vous vous rappelez, Duhamel, après la première guerre, il était parti vraiment énergiquement, avec la vie du martyr, etc. Puis d'année en année, il était devenu gentil, gentil, bien, bénin, ami de tout le monde. Ça, c'est pas possible. Parce qu'à mon sens, ce que l'on appelle cette sagesse du soir, c'est en réalité la montée en soi de l'indifférence. Je me rappelle l'avoir lu dans Graham Greene, il n'y a pas tellement longtemps, dans Les Comédiens, une chose qui m'a beaucoup touché. Il fait parler, je crois, c'est en 2015, c'est pas pour un prêtre quelconque, parler de la violence. Il dit, la violence peut être une intersection de la charité, de l'amour, tandis que l'indifférence, c'est la perfection de l'égoïsme. Et bien, je sais qu'une des menaces de la vieillesse, c'est le repliement sur soi, donc l'indifférence. Donc, on est plus sensible à ce qui se passe autour de soi. Et ça, je ne veux pas. Je me rappelle Hugo qui disait, moi, je m'aurais indigné. Je ne demande pas de mourir indigné, mais je demande à Dieu, enfin, si vous me l'accordez, de rester capable de réaction devant ce que je trouve, ce que j'ai longtemps trouvé abominable, inacceptable. Vous voyez, celui qui assiste mieux au mal, disait Victor Hugo, assiste le mal. Et bien, j'espère que je serai toujours capable, jusqu'à ce que je fasse, d'avoir des réactions devant le scandale.
Quand on évoque devant vous la possibilité d'une autre vie, comment réagissez-vous?
Je ne sais pas ce que vous entendez par autre vie. Hein. Si vous voulez parler d'une vie post-mortelle, on en parlera un autre moment. Mais si vous voulez dire, est-ce que ça vous intéresserait de revivre, je ne sais pas, une réincarnation, alors je répondrai carrément non. Je n'ai pas du tout envie. Je n'ai pas du tout été malheureux, hein, je ne peux pas dire que j'ai eu une vie misérable. Mais enfin, j'ai fait le tour des questions, je trouve. Hein, Au fond, j'ai été un homme heureux. Hein. Il n'y a eu qu'un drame dans notre vie, c'est la mort de notre premier petit enfant qui s'est tué en tombant de 10 mètres de haut. C'est la seule chose qui nous a vraiment brutalisés. Autrement, tout s'est déroulé normalement. Alors, je sais ce que c'est que le bonheur de la jeunesse, de l'enfance, oui, de l'amour aussi. Je sais ce que c'est qu'une vie de famille, mais j'ai envie de voir autre chose. Enfin, je trouve que ça suffit. Une fois, et puis, j'ai plus envie de recommencer.
Alors, les perspectives de la mort.
Il y a deux questions aussi là-dedans. Il y a l'avant-mort et l'après-mort. Alors, quand je pense à ma mort, je n'ai pas peur. J'ai été longtemps effrayé, quand j'étais plus jeune, avec l'idée que si je disparaissais trop tôt, mes enfants, ma femme seraient dans une situation difficile. Maintenant, ils sont tous mariés, mes gosses, ils sont sur oral, et ma femme aura une pension suffisante pour lui, surtout là où elle n'a pas besoin de grand-chose. Donc, je suis plus inquiétude. La mort en elle-même ne me fait pas peur, je vais vous en parler. Ce qui me ferait peur, c'est la souffrance ou l'amoindrissement. Souffrance, je crois qu'il y a des moyens aujourd'hui de ne plus souffrir avec les anesthésiques. Enfin, je n'ai pas entendu dire qu'il y ait des morts particulièrement atroces, c'est toujours moyen d'éviter la souffrance. Ce que je n'aimerais pas du tout, ce qui me terrifierait, c'est d'avoir été une victime de je ne sais quelle anesthésie qui me ferait qu'on pousserait une petite voiture. C'est aussi pénible pour l'individu que pour ceux qui l'entourent. Alors ça, je désirerais beaucoup en être licencié. Maintenant, l'autre problème, c'est-à-dire, y a-t-il quelque chose de côté? C'est des questions, bien sûr, et je ne peux pas répondre avec fermeté. Je veux dire simplement que je l'espère, oui, je dis bien je l'espère, et je le crois. Il me semble qu'il y a dans l'individu humain, ce que j'appelle, c'est une figure appelée, une présence de l'infini. Je crois pouvoir vous déplacer là si vous voulez, enfin ce qui est essentiel chez nous, ce qui constitue un homme, c'est une certaine réclamation. Et le fait même qu'il y ait cette réclamation à une aspiration prouve qu'il y a quelque chose qui y répond. Pourquoi prouve? Parce qu'on ne saurait pas désirer quelque chose si on n'avait pas déjà un pressentiment. Il y a, à mon avis, une connaissance par contact. C'est ce que j'appelle, entre guillemets, Dieu, d'ailleurs, c'est pas seul à dire comme ça, c'est là qu'on en appelle Dieu, c'est lui Saint Thomas. Et Saint Thomas disait, c'est là que j'appelle Dieu, qu'on appelle Dieu, c'est la totalité vivante de ce vers quoi notre cœur se dirige. C'est-à-dire la bonté, la bonne volonté, la gentillesse, la solidarité, l'amour, tout ce que vous voudrez. Alors je me dis, si comme je le crois, l'essentiel de nous-mêmes ne disparaît pas, nous allons faire de l'autre côté une certaine trouvaille probablement assez surprenante. Toutes les idées que nous pouvons nous donner ici-bas, ce qu'on appelle paradis, c'est une puérilité complète. Il ne faut absolument pas essayer d'imaginer, ou ne peut pas. D'autre part, je crois que les catégories d'espace et du temps disparaîtront de l'autre côté. Ce qu'on appelle l'éternité n'est pas une durée qui se prolonge, mais c'est un présent permanent. Alors, ni temps, ni espace, quoi? Quelque chose que je ne sais pas. Que je ne voudrais pas définir dans le terme éternité qui donne l'impression d'une durée indéfinie. Je définirais plutôt en termes d'intensité. Ce que nous avons trouvé de meilleur ici-bas, nous l'éprouvons d'une manière permanente et au degré maximal. Hein. Et je me dis, c'est vraiment une petite conclusion, ça. Je me dis, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Hein. Mais de toute façon, s'il n'y a rien, je ne le saurais même pas, puisque mon cerveau sera dissous avec ma pensée. Donc je ne serai pas déçu. Puisqu'il y a quelque chose à rapport forcément passionnant.
Dans la région.
Oui, c'est quelqu'un que nous avons découvert en arrivant ici en 1960. Vous savez que je suis à la messe, et c'était justement pour Pâques. Et comme elle est arrivée d'ailleurs un peu en retard, j'aime pas, au moment du serment, j'entendais un prêtre qui avait l'accent de la région, le roulement de l'air, que je n'ai pas moi, je suis votre bourguignon, on a fait un master Louis Pâques comme ça. Il était en train de faire un petit topo qui n'était pas du tout une homélie, puisqu'il racontait la passion. Et il en était arrivé au moment où il disait, eh bien les apôtres, hein. Qu'est-ce qu'il disait pendant qu'il était dans la région? Il le disait tranquillement. Il dit, ça c'est pas mal. Alors j'ai dû voir ce type après, et on est devenu amis. Hein. Il y a donc 20 ans que je le connais. Je ne sais pas bien dire son nom. C'est un homme de 49 ans, qui reçoit 260 francs, je crois, par mois de l'évêché. Pour vivre, il est obligé d'être ouvrier. Alors il est ouvrier forestier, il gagne 800 francs parce qu'il travaille à mi-temps. Et le reste du temps, il est curé. Pour lui être curé, ça veut dire ne pas embêter les gens. Il ne fait jamais de propagande. Hein. Il est à la disposition. Un type qui fait des transports d'enfants, qui charge du fumier, qui transporte des choses lourdes, par exemple. Les gens savent qu'auprès de ce bonhomme, on trouve ce qu'on veut tout le temps. C'est vrai, il m'a énormément impressionné. Il y a 7-8 ans, il a eu un accident très grave, enfin un accident cardiaque, quoi. Il a fait une opération. Il avait dit, vous avez une chance sur 4 de vous en tirer, il a dit, on lui a remplacé une valvule du cœur, enfin je ne sais pas quoi. Mais le médecin lui avait dit, surtout, il faut modifier votre rythme de vie. Il n'a rien modifié du tout. Il continue à aller le matin dans la forêt, à couper ses troncs, à planter des arbres. C'est un homme qui force non seulement le respect, mais l'admiration et la tendresse. Et il est aimé de partout. Hein. Le maire du village, c'est un homme qui est un commune, c'est un fou de partout, hein, c'est mes enfants. C'est un homme qui dit, en parlant de l'abbé, il dit, monsieur le curé, alors que moi je dis l'abbé Fernet, hein, monsieur le curé. Tellement on le respecte. Et on ne le respecte pas en tant que bonhomme qui raconte des trucs, en tant qu'être humain. Ben, je trouve que c'est très important. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'il m'ait donné cette analyse.
Nous ne sommes pas très loin de Thésée. Et vous avez des liens avec ce lieu. Pouvez-vous nous raconter?
Mais figurez-vous, quand on a acheté la maison en 60, je ne savais même pas l'existence de Thésée. C'est devenu un endroit où se rassemblent des tas de gens à partir de 63-65, mais en 60, on en parlait bien. Vous savez comment ça a commencé? Ce prieur de Thésée qui s'appelle Roger Schiste, qui est à la fois un échevellois, je crois, et un bourguignon par sa mère, avait décidé vers 1938, si je me rappelle bien, de créer une communauté de moines contemplatifs. C'est un mystique, c'est un homme qui a une profonde vie intérieure, qui s'était dit, si les catholiques sont des moines, pourquoi les protestants n'en ont-ils pas? Alors il avait l'idée de fonder une communauté, je répète, de contemplatifs. Puis il y a une intervention à l'intervalle de la guerre, et puis il a repris, je crois, en 1942, toujours contemplatif, et il s'est produit quelque chose que je n'explique pas, ces gens qui ne faisaient aucune propagande, c'est un mot qui leur reste tellement étranger, ont vu venir auprès d'eux des quantités de jeunes gens de France, de Chine, d'Allemagne, ensuite de tous les pays du monde, qui venaient les interroger, qui venaient vivre avec eux. Et je vous répète que c'était uniquement des contemplatifs et qu'ils n'avaient jamais parlé d'ouverture sur le monde. Et là, je ne sais pas comment l'expliquer. J'en ai parlé au frère, juste qu'il ne sait pas lui-même, il dit juste un rayonnement, il s'est passé quelque chose en dehors de nous. Et c'est passé quelque chose de si important qu'on a vu arriver, je crois, en 1974, ce fameux concile des jeunes que j'ai vu. Il y avait 40 000 jeunes gens et jeunes filles, hein, avec d'énormes tentes, il y en avait 7, je crois qu'on avait, j'avais forme de cirque, hein. Et ce qu'il y avait de si particulièrement extraordinaire, c'est qu'il y avait chez 140 000 jeunes gens et jeunes filles une qualité de silence que j'ai presque jamais retrouvée ailleurs. Hein. Bon, dans la journée, on les entendait chanter, des petites guitares, des flûtes, etc., ils s'agitaient un petit peu, mais et dans les trois offices, les trois offices par jour, hein, un vers 7h30, un vers 12h30 et un vers 19h, ils étaient donc 40 000 et vous entendiez même tous ces personnes. Ça ne dure pas longtemps, ça dure une vingtaine de minutes. Mais un renseignement, enfin une vie intérieure, une méditation, qui me renversait, étant donné que ces jeunes gens, je les connais, quoi, ce sont des gens qui ont des pensées, et qui se les pensaient plus. Bon. Alors il m'est arrivé très souvent d'en interroger ces jeunes gens. Par exemple, on en trouve, vous savez, des fonds d'auto, alors on les prend quand on va à Macron, quand on revient, et toujours je les interroge. Et je me suis aperçu, confirmé du reste par le frère Roger, qu'il y a au moins un tiers d'incroyants. Il y a beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques, je crois même que les catholiques deviennent de plus en plus nombreux. Mais pas mal d'agnostiques. Et chaque fois, je leur disais, mais qu'est-ce que vous cherchez là, puisque vous n'y croyez à rien? Et les réponses s'accordaient assez bien. Nous revenons presque tous. C'est un nouveau climat. On est avec des copains. On pose des questions. On écoute. On réfléchit. Ça nous permet de nous reprendre. Je vais que ça n'entendait pas reprendre. Alors, ils répondaient plus ou moins bien. Ils disaient, ben, on est un peu trop dispersé dans la vie quotidienne. On veut essayer de rentrer en nous-mêmes, quoi. Je ne sais pas si j'ajoute moi-même quelques expressions à ce qu'il disait. Mais le fait est que c'est vrai, il y a toujours ce tiers, c'est à peu près ce que me dit chaque fois, frère Roger, quand je dis chaque fois, c'est que en septembre, fin septembre, chaque année, il m'invite, ma femme et moi, pour faire le point. Et comme il est accaparé, hein, je ne peux pas l'ennuyer, alors je téléphone très rarement. Mais chaque année, depuis 70, 72, en septembre, on va chez nous. Alors on parle, comme ça, cœur à cœur. Et c'est là qu'il me répond, chaque année, je lui pose la même question, il est incroyable, mais il est très nombreux, il dit. Frère Roger, c'est quelqu'un d'affirmé, vous savez. J'ai parlé de gens que j'avais beaucoup aimé, un Marc Sarnier, mon petit curé, là, avec ses 10 paroisses. Mais lui, c'est autre chose. En ce sens que je crois que c'est un de ces êtres dont on peut parler à propos desquels. On veut parler d'un mot, on peut banaliser aujourd'hui. Car, vous savez, il sort quelque chose, cet homme. Hein. Rien que de le regarder, l'écouter un instant, on est sur un autre plan. Je me rappelle, hein, dans le procès de Jeanne d'Arc, un témoignage qui était fait sur elle, je me rappelle plus qui. Et qui disait, devant Jeanne, on oubliait les femmes. Ça, c'est curieux, on oubliait les femmes. Eh bien, lui, je ne dis pas qu'on oublie l'individu humain. Mais on est en présence de quelqu'un qui est presque d'un autre ordre. Enfin, en même temps, c'est un homme comme nous, et en même temps, c'est quelqu'un de différent. Il sort de lui, oui, quelque chose qui nous bouleverse, qui nous atteint très profondément.
l'écriture, le geste d'écrire, c'est un plaisir ou une épreuve pour vous?
Écrire, je tiens à écrire de ma main, je veux dire, c'est jamais tactilographié. Et je n'aime pas travailler sur un texte tactilographié, parce qu'il est déjà détaché de moi, et j'aime que ça soit quelque chose qui me touche personnellement. Si bien que je travaille sur ma propre écriture, je fais un brouillon, je recommence ce brouillon, je refais quelquefois une deuxième version, je travaille cette deuxième version. Ce qui vous indique tout de suite que je ne travaille pas facilement. Vous avez parlé de difficulté, c'est vrai. Et c'est une difficulté, je crois pouvoir l'avouer, qui s'accroît chez moi. Je suis vieux et quand j'avais 50 ans, j'écrivais plus facilement. Et maintenant, les tournures de phrases quelquefois ne me viennent pas, un mot m'échappe, je regarde un dictionnaire, je vais très lentement pour essayer. Si vous voyez le manuscrit, c'est épouvantable. Il n'y a que moi qui peux m'en tirer. D'abord, j'écris de plus en plus de coups, c'est lamentable, mais c'est comme ça. Je suis aperçu en regardant l'écriture de Claudel, par exemple. Il avait une très belle écriture en fer forgé, hein, jusqu'à sa 80e année. Puis entre 80 et 85, il faisait tout petit. La Martine, il faisait lui autre chose, un petit peu féminin, c'est très beau. Tout petit aussi à la fin. Ben, j'en suis là, j'écris tout petit. Alors je marque difficilement, mais on se tient à me relire directement sur ce que j'ai fait moi-même. Et avec de grandes difficultés. Il y a une question qu'on m'avait une fois posée, et je me la pose à moi-même. Quel rapport y a-t-il entre le fait que je suis orateur soumis, conférencier, que je suis blabla, et que je suis écrivain? Beaucoup de gens me disent, quand on vous lit, on vous entend. Et je me rends compte que c'est vrai, parce que j'ai à lutter, quand j'écris, contre la tentation de la phrase parlée. Quand je réfléchis à quelque chose que je vais dire, je le sens dans ma tête comme je voudrais le dire. Mais entre écrire et parler, vous savez, il y a une grande différence. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la même chose. Je tiens, dans la mesure où je le peux, à ce que mon style soit oral, c'est-à-dire qu'on entend ma voix derrière. Mais attention, il faut trouver une limite. Parce que, par exemple, quand je lis un texte, comment ça s'appelle ça, machin phone là, hein, au magnétophone, eh bien, quand je l'ai fait, par exemple, pour M. Bobertou, j'ai un bouquin sur moi, hein, il avait été très loyal, il avait repris le magnétophone, tout ce qu'il avait dicté. C'était pas possible. Parce qu'il y a trop d'approximations, il y a des phrases mal foutues, et quand on écrit un texte que l'on signe, je voudrais qu'elle soit au moins correcte, les phrases, hein, et d'autre part, pas trop approximative. Quand on dit, comme ça le mot vient plus ou moins, on peut approcher de ce que l'on veut dire, mais quand on écrit, il faut coller à la réalité. C'est pour ça que je suis obligé d'avouer que toutes les fois que j'en dis sur le magnétophone et que je demande à quelqu'un vous le reproduire, je demande à ce quelqu'un vous m'en envoyez le texte et je le refais. J'ai fait ça totalement et récemment encore pour une interview, j'ai tout recommencé.
Dans le fond, toute votre carrière s'est exercée hors de Paris, loin des honneurs, loin des académies. Vous ne regrettez pas?
Figurez-vous que en juillet 1939, j'ai été venu déjeuner à la maison. C'est pas que j'étais lié avec lui, mais Mauriac habitait à Malaga, 40 km de Bordeaux, j'ai lui téléphoné de temps en temps, il venait. Et un jour, le jour de juillet, je lui dis, voulez-vous venir déjeuner? C'est aujourd'hui, jeudi prochain, il dit oui, j'y vais, c'est un Égypte. Bon, je vous raconte pas le déjeuner à Égypte, c'est assez intéressant. Puis là, on sort de chez moi, j'habitais rue de la Bonheur, une petite rue au centre de Bordeaux, et nous marchions vers le centre de Bordeaux, vers l'avenue de l'Intendance. Je vois encore Mauriac qui est son fils qui marchait devant, et j'y des mois derrière. Ça, c'était en juillet 39, et je venais de publier mon premier bouquin, qui s'appelait Flaubert devant la vie devant Dieu, que je trouve aujourd'hui assez naïf, parce que c'est pas un bon bouquin. Mais Mauriac m'avait fait une préface, qui m'aidait beaucoup. Et sur ce trottoir, je me rappelle toujours ça, Jules m'a dit, en me mettant même la main sur l'épaule, alors, il m'a joué la partie vers l'académie. Je lui ai dit, comment ça? Alors, vous savez bien comment Mauriac est arrivé, hein. Mauriac a été lancé par un extraordinaire article de Barès dans l'Écho de Paris, 1910. Et bien l'article de Barès pour Mauriac, c'est la préface qu'il vient de vous faire. Vous êtes sur rail, vous partez dans l'académie. J'avais rigolé, du reste, j'étais jeune, puis je n'avais pas encore d'idée précise, mais en fait, ça me paraissait invraisemblable. Sautons les années, voilà mon ami, Hervé Simon, dont je vous ai parlé, qui était un garçon qui tentait en même temps que ma lecture normale, et qui lui désirait beaucoup et très précisément l'académie. Il est connu, je ne me rappelle plus en quelle année, il y a une dizaine d'années peut-être, comme on était très copains, je lui envoie un télégramme de félicitations, et il répond par un télégramme où il y avait « Je suis maintenant, je te fais la courte échelle ». Et ça, je lui ai répondu, pas par un télégramme, une longue lettre, en lui disant, écoute, non, je ne suis pas sur la même longueur d'onde, c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai expliqué, même en souriant, je ne voulais pas tout dire, mais je lui dirais tout. Je lui ai dit, il faut vivre à Paris pour être sage, pour être académicien, c'est vrai, il faut pouvoir recevoir des gens, il faut avoir une vie mondaine, quoi que je n'ai pas, ni le moyen, ni le goût de le faire. Il me disait, parce qu'on s'est perdu après, il me disait, alors tu me fais, je lui ai dit, non, il ne s'agit pas de ça, c'est simplement d'une certaine disposition. Tu le désirais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, moi je ne le désire pas. Alors il dit, mais je comprends tout de même, une consécration. Je ne suis même pas tellement sûr. Je comprends qu'il y a des gens de premier rang qui ne sont pas rentrés à l'académie. Il faut faire des choses pour rentrer à l'académie que je ne veux pas accepter de faire. Mais qui me dit quoi, c'est ça qui te gêne. Alors je me suis lancé. Et j'ai dit qu'il y a des visites à faire. Et à cette logique, je ne ferai jamais. Je lui ai dit le nom propre, je n'ai pas la peine de répéter ici, mais il a dit, j'ai dit, je ne me vois pas le dos rond et la bouche en cœur devant un certain monsieur, un autre monsieur, pour lui demander la voix. Je ne veux pas. D'autre part, je lui ai dit, c'est peut-être de la paresse, mais je t'assure, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas pourquoi ça serait intéressant d'être certain d'être toujours dans un repas à la droite de la maîtresse de maison. Ça ne m'intéresse pas du tout, et je sais que c'est capital pour, peut-être pas pour toi, mais enfin, ah mais je tiens quand même, me disait-il, mais ça ne m'intéresse pas. Paresse si tu veux, mais aussi autre chose. Quoi autre chose? Là, je vais vous le dire. C'est Bernanos qui m'a éclairé là-dessus. J'en ai un réflexe viscéral, mais c'est Bernanos. J'ai lu un jour ceci, sous la plume de Bernanos, dans une lettre à un camarade, à un copain, je ne me rappelle plus lequel, à la suite de cette proposition que Mauriac lui avait faite très gentiment. Hein. Écoutez, Bernanos, si vous dites simplement à moi, Mauriac, je suis disposé à entrer à l'académie, on vous dispense de toute visite, je t'en prie. Il avait répondu très convenablement comment on devait faire un académicien. Mais parallèlement, le même jour où il avait répondu à Mauriac avec certaines phrases, il avait dit à un copain ceci. Tu comprends, il y a des choses qu'on ne peut plus dire en costume de carnaval.
Vous croyez sur quoi en ce moment, oui?
Il y a longtemps que j'ai entretenu un travail sur Peggy, figurez-vous. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans cet énorme bouquin, que j'appellerai du reste Regard sur Peggy, comme j'avais fait Regard sur Bernanos, je ne prétends pas arriver à faire un portrait, c'est très difficile, hein, mais je vais présenter un certain nombre de thèses de vue. Qu'est-ce qu'il a fait à l'égard du reste? Pourquoi? Quand il s'est brouillé avec Kirchner et le groupe de l'unité socialiste, pourquoi? Il a été d'abord un croyant, puis il a été croyant, mais dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'il disait exactement? Trajectoire politique, sa vie intérieure, ses amours contrariés. Alors je voudrais essayer de présenter quand même une série de photographies de pays qui finiront par se superposer. Mon dernier chapitre s'appelle « Et maintenant ?» Ça veut dire comment est-ce qu'on peut envisager le personnage. Je vous dirai comme désolé comment je le vois. Surtout un homme malheureux, hein, vraiment très malheureux. Il a raté son coup. C'est un homme, mon Dieu, je ne peux pas lui en vouloir, qui avait une grande ambition, qui se sentait dès sa deuxième année et même avant plein de talents, qui voulait se faire reconnaître et qui n'y est pas arrivé. Il y a eu un moment, vers 1910, quand il a écrit sa première Jeanne d'Arc, quand le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, où il a obtenu des articles importants par celui de Barès. Barès avait lancé par deux articles successifs, un du 21, je crois, et l'autre du 28 février 1910 dans l'école de Paris. Il a pris très de tête. Mais en réalité, il fallait bien comprendre, j'ai lu très près les articles et j'ai vu ce qui paraissait à ce moment-là dans la presse. Peggy s'était beaucoup compromis, mais publiquement, pour l'affaire Dreyfus. En 1910, il se déclarait catholique. Alors, les catholiques, dans l'ensemble, avaient été anti-Dreyfus. Hein. Alors, voilà que Barès lui a fait un article pour dire ce merveilleux, un garçon comme ça, qui autrefois savait bien son catéchisme, qui s'est un peu orienté mal vers son intimité, et qui maintenant revient aussi des scènes. Drummond, la libre parole, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est une manchette, enfin, un immense article, la gendarme d'un ancien Dreyfus. Ça, c'est la date, hein. On lui faisait un accueil dans la mesure où il prenait pour un transfuge. Mais comme cette même année 1910, il a publié un texte important qui s'appelle Notre Jeunesse, dans lequel il dit, oui, j'ai rejoint les patriotes nationalistes sur le plan de la défense nationale, mais il y a une chose qui n'obtiendront jamais de moi, je ne renierai pas la République, je resterai républicain. Alors, dès cette date, l'équipe qui lui a été un succès, celle s'intéressait à lui. On l'avait cru, hein, il s'est supplété, il s'est déclaré indépendant sur la pluie. Et c'est vrai, et c'est vrai qu'il y aura autour de lui une conjuration du silence. Ce qu'on considère aujourd'hui, avec quelquefois un peu d'excès, comme ces chefs-d'œuvre que vous avez vu publier dans la Pléiade, coup par coup, c'est une figure publiée et tombe dans un trou. Personne n'en parle. L'ancienne gauche, enfin la gauche, ne l'aime pas parce que c'est vrai qu'il l'a abandonné. La droite n'y joue pas assez confiance parce qu'il serait républicain. Si bien quand il va mourir à 41 ans, c'est qu'il n'est pas raté et qu'il se fait rater. Il n'a obtenu rien du point de vue de la gloire, zéro. Sa vie intérieure, ben, du côté de sa femme, ça n'a jamais bien marché. Je ne crois pas qu'il l'a épousée avec passion. Vous savez, la fameuse phrase de Saint-Exupéry, aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Je crois que c'est vrai, hein. C'est comme ça que s'était marié avec une fille, qui ne faut pas très jolie, ni laide, et qui était socialiste comme lui, et qui était très interreligieuse comme lui à ce moment-là. Puis il y avait le drame qui s'est produit de sa conversion, entre guillemets, sur laquelle il faudrait examiner. Sa famille, sa belle famille, il en avait beaucoup voulu. Parce qu'on l'avait pris comme tel, comme anti-curé, tout d'un coup, il venait à l'éducurer, ça n'allait plus, hein. Avec les enfants, c'est pas non plus parfait. Puis il avait trouvé une compensation du côté d'un amour secret, d'un grand amour, avec une certaine Blanche Raphaël, qui était plus grande que lui, qui était une juive blonde, qui rusait quelqu'un en respire, mais elle a décrit. Mais elle était un couple assez bizarre, parce qu'elle était nettement plus grande que lui, puis il était comme ça, il la regardait d'en bas, avec cette chevelure blonde pour une juive, et très sécotée, comme je vous le dis. très forte, paraît-il, puis André Sir qui m'a dit ça. Cette jardine, elle n'aimait pas, c'est certain qu'elle n'aimait pas. Alors il a écrit des quatrains là-dessus qui sont très beaux et qu'on a révélés qu'en 1841. Là, vous voyez, carrière, vie familiale, amour, toujours c'est raté. Si bien que ce sur quoi j'insisterai surtout, c'est ce côté de l'homme malheureux, un homme qui a raté sa vie. D'autre part, c'est un homme qui malgré tout a dit des choses qui méritent d'être retenues. Et dans mon dernier chapitre, je dirai à la fois les mérites de l'écrivain et des messages qu'il nous a laissés, dont certains sont importants. D'autre part, bon, j'ai fini ça, je suis en train de corriger mes épreuves, je pense que ça paraîtra en janvier, on m'a dit, au seuil en janvier 81, si je suis encore doucement. Et ce que je voudrais faire, ce que j'ai commencé à faire, c'est un petit livre que j'appelle dans le secret de ma tête testamentaire, parce que je ne sais pas combien de pages je vais mettre, mais c'est le livre auquel j'ai passé le plus pris en somme. Je vais appeler ça l'affaire Jésus, parce que c'est un autre Peggy, justement. C'est dans Tullio, qui est le dernier texte de Peggy, qui sera publié après sa mort, vous savez sans doute. Il avait dit, je me suis beaucoup battu sur l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a longtemps divisé les Français, mais il viendra bien un temps, ils leur oublieront. Tandis que l'affaire Jésus sera jamais oubliée. J'ai conçu ça en trois parties. Une première partie que j'appelle le Nazaréen, vous savez que c'était un homme qui s'appelait en réalité Yeshua, c'est son nom araméen, qui a vécu très certainement sous Tibère, et qui a vraiment, c'était tacite lui-même qui l'a dit, été mis à mort sous consulat. Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui historiquement? Vous savez qu'un certain nombre de gens qui nient son historicité, il n'y a plus moyen de le nier, c'est certain. Un homme comme Lindbergh, c'est un grand incroyable, comme vous savez, un rationaliste, dans son livre Jésus de 1963, je crois, dit, et d'autres l'ont dit depuis, il n'a pas moyen de nier, il a existé. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est autre chose. Étant donné que ce que nous appelons les évangiles, ce sont des textes assez tardifs, dont on n'a pas les originaux, et qui vraisemblablement ajoutaient un certain nombre d'embellissements, mettons de légendes à ce qu'il avait fait. Peut-on entre-deviner le personnage qu'il était? Première partie. Deuxième partie, j'appelle ça les obstacles. Et voici mon idée. Quand il était de ce monde, quand il travaillait en Palestine, et qu'il produisait autour de lui une espèce de commotion, les gens n'avaient encore jamais entendu ce qu'il avait dit. C'était un cas, c'était hier, c'était tout neuf. Tandis que nous, après 2000 ans, pour essayer d'écouter ce qu'il nous a dit, nous sommes obligés de traverser les plus grands obstacles. Quoi donc? Ce que l'on a fait de son message. Ce que l'institution en a fait. Ce que les chrétiens en ont fait. Alors, c'est vrai que, quand on parle de béatitude, les gens pensent qu'il abuse. Hein, quand on pense à Jésus, on pense à l'inquisition. Puis la théologie qui a tellement ajouté de choses. J'ai été tout à fait frappé, mais c'était pas moi qui avais dit que l'on m'avait poussé là-dessus, de m'apercevoir que dans les évangiles, il n'est pas une seule fois, mais vous entendez bien, pas une seule fois question du péché originel. Or, saint Paul va commencer par dire dans l'Épître aux Romains, de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, etc. Puis de construction, saint Augustin là-dessus. Donc, il y a ce que l'on a fait de son message et ce que la théologie en a fait. Hop ça. Pour une partie, j'avais pensé à citer tout ça bêtement le message, mais c'est tellement un texte banal que j'ai fini par trouver autre chose. Ça sera un titre entre guillemets, et moi je vous dis. Car ça arrive souvent et que ce personnage, qu'on appelle notre Seigneur, a dit on vous a enseigné que, eh bien, et moi je vous dis. Alors j'ai aussi trouvé le noyau de ce qu'il disait, le noyau central, le feu central, quoi. Et il m'a semblé que c'était cette phrase que vous trouvez chez Saint-Luc et ailleurs encore, le royaume de Dieu est en vous. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Alors j'ai essayé de bien comprendre, à une femme, ça veut dire ceci. À l'intérieur de vous-même, qui que vous soyez, si fruste ou si corrompu même que vous soyez, il y a une réclamation, il y a une revendication. Tout le monde désire quelque chose. Dans un idiome balbutiant, on appelle ça le bien, la solidarité, la justice, l'amour, mais enfin, il y a quelque chose qu'on réclame. Immédiatement, on peut nous dire, oui, on le transfère fictivement dans une réalité objective, mais c'est parce qu'on désire que ce soit vrai. C'est une idée de Marx, par exemple. Mais je réponds à la suite de ce personnage, mais non. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous n'aurions même pas l'idée de le désirer si nous n'avions pas une pré-connaissance. Là, laissez-moi faire le cuir, c'est dans Platon. Platon, à propos de l'amour, l'amour désir même, dit c'est fait de deux éléments. Poros et peignoir, en grec. Hein. Poros, ça veut dire l'abondance, peignoir, ça veut dire la peignure et le manque. Mais il y a poros, ça veut dire que si on désire une femme, par exemple, il faut bien la connaître, même si c'est une femme duale, elle est faite d'éléments empruntés des femmes réelles. Donc, si on désire quelque chose, c'est qu'on en a déjà une espèce de préposition, on la voit. Mais poros, manque. Si on désire, c'est qu'on n'a pas exactement ce qu'on voulait. Eh bien, le désir essentiel de l'homme, c'est de réaliser cette unité du bien et du beau qu'il a en lui, dont il a une préconnaissance certainement, que j'appellerai un pressentiment, et c'est ça, le royaume de Dieu est en nous. Il y a au centre de chacun de nous-mêmes une connaissance par contact. Pascal disait connaissance du cœur, j'aime pas tellement, ça fait presque du cœur, mais connaissance par contact de soi vers quoi nous allons. C'est ça que le Christ a dit. Maintenant, je me demande, deuxième partie de cette dernière partie, je me demande si c'est encore aujourd'hui une valeur d'impact, comme on dit. Est-ce que les gens d'aujourd'hui peuvent encore comprendre ce qu'il arrivait à dire? Est-ce que je peux appuyer une sorte d'espérance sur le fait qu'on découvrirait ce qu'il a dit là? j'en suis pas sûr. Enfin, vous voyez, c'est le bouquin que je prépare et je voudrais essayer d'y mettre tout ce que je peux, tout ce que je suis.